L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 15 août 1945. La pendule affiche 11h59. Dans une minute, l'empereur du Japon va s'adresser à la nation. La radio diffuse l'hymne national, puis s'élève cette voix que peu de gens connaissent, car Sa Majesté n'a jamais pratiqué un tel exercice. Mais l'heure est grave, puisque c'est l'heure de la reddition. C'est la première fois en 26 siècles que le Japon baisse les armes devant un adversaire. L'allocution dure un peu moins de 5 minutes. Le pays entier est sous le choc. À quelques milliers de kilomètres de là, dans la jungle de l'île de Lubang, aux Philippines, ils sont une poignée d'hommes à ne pas savoir. Le message n'est pas parvenu jusqu'à eux. Hiro Onoda et quelques-uns de ses soldats vont continuer à se battre pendant 30 ans. Midi, en ce 15 août 1945. Tandis que le monde entre dans une nouvelle ère, un sous-lieutenant s'enfonce, lui, dans la jungle, bien décidé à mener la lutte jusqu'à son terme. Il ne se rendra qu'en 1974, après des années irréelles, passées à n'accepter ni la défaite, ni la réalité. Il est 11h59, c'est l'heure H de mon histoire. C'est en décembre 1944 qu'Hiro Onoda est envoyé sur l'île de Lubang, dans l'archipel des Philippines. Avec une poignée d'hommes, comme lui, formés aux techniques de la guérilla, il a reçu pour mission de retarder le déploiement des soldats américains sur ce morceau de terre surgi des eaux. On lui a dit, on lui a répété que sa mission était stratégique et qu'il ne devrait en aucun cas l'abandonner. Formé dans l'une des écoles militaires les plus exigeantes du Japon, la 33e compagnie de Futamata, Onoda mesure l'importance de ce qu'on attend de lui. Aussi, quand son supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, lui délivre son ordre de mission, il est prêt. Il est prêt à se battre jusqu'au bout, en dépit de tout. Mais avant de plonger avec Onoda dans la jungle touffue, faisons connaissance avec ce soldat hors norme, qui n'avait pourtant rien d'un foudre de guerre lors de ses jeunes années. Hiro est le cinquième enfant d'une fratrie qui en compte sept. Seul Yoshio meurt en bas âge, ce qui fait des Onoda une tribu importante dans le village de Kamekawa. Leur nom, comme c'est souvent le cas à cette époque, vient sans doute de la région d'où ils sont issus. Il signifie en japonais « la rizière dans la petite plaine ». Hiro voit le jour le 19 mars 1922. Dans la famille, on est prêtre shintoïste de père en fils, ce qui n'empêche ni le mariage, ni la possibilité, voire la nécessité, d'exercer par ailleurs un autre métier. C'est le cas du père d'Hiro. Il est instituteur, comme l'a voulu son propre père, un homme sévère, au regard un peu dur, dont on prétend qu'il a beaucoup légué à son petit-fils. Mais le père d'Hiro, s'il se plie de bonne grâce au métier qu'on lui a choisi, est un poète dans l'âme. Et s'il respecte le mode de vie dicté par la tradition, il n'en rêve pas moins de mener une existence qui lui conviendrait davantage. D'ailleurs, et c'est totalement inconcevable à l'époque, il tombe amoureux de sa future femme. Il l'épouse après la naissance de leur premier fils pour s'en séparer peu après, non sans avoir été chassé de chez lui. Et il la réépouse 3 ans plus tard, consolidant la famille en faisant donc 7 enfants, dont 6 survivent. C'est au sein de cette drôle de tribu qu'Hiro voit le jour. Tiraillé comme son père entre le respect des règles, du confucianisme et une certaine forme de liberté qu'il veut acquérir à tout prix. Entre l'obéissance à l'ordre établi, le culte des ancêtres et le respect de la famille, du clan et de l'empire. D'autant que, arrivé cinquième, Hiro n'est pas celui vers lequel les regards se tournent. Il y a d'abord Toshio, brillant étudiant à l'école de médecine. Puis vient Tadao, qui a choisi l'armée. Suivent Chie, une fille, Yoshio qui meurt en bas âge, et enfin Hiru, Shigeo et une dernière fille, Keiko. Face à ses frères, Hiru ne fait pas le poids, dans tous les sens du terme. Ce qui peut le mettre dans des colères folles, dont il se libère en pratiquant le kendo, cet art martial qu'il pratique avec un sabre de bambou. Jusqu'à l'épuisement, il s'entraîne dans le dojo. Et s'il n'est pas le plus fort, qu'importe. Ce qui lui plaît, c'est de ne jamais abandonner. Un trait de caractère qui va lui servir bien des années plus tard, mais n'anticipons pas. À l'école, Hiro ne fait donc pas partie des meilleurs. À la maison non plus, où son père ne manque pas de lui faire remarquer. Pour le jeune garçon, le plus petit par la taille des Onoda, trouver sa place n'est pas facile. Quand il informe ses parents qu'il aimerait s'inscrire dans une école spécialisée, les sarcasmes fusent. C'en est trop pour Hiro. À 17 ans, il décide de prendre le large et d'aller voir si les rizières sont plus vertes ailleurs. En 1939, il entre à la société d'import-export Tajima Yoko, spécialisée dans la vente des vernis. Et tant qu'à faire, il demande à être affecté dans la succursale d'Ankeu, en Chine. Il n'a pas fait ce choix complètement par hasard. L'un de ses aînés, Tadao, y est lieutenant d'infanterie. Mais cela, les parents l'ignorent. Ils tentent de le décourager et le père a des mots très durs pour Hiro. Conduis-toi toujours en homme et sois digne du nom que tu portes, comme s'il envisageait qu'Hiro en soit incapable. Il va lui prouver le contraire. Nous allons y venir. Arrivé en Chine avec son maigre bagage, Hiro doit pourtant se rendre à l'évidence. Il va avoir besoin de l'aide de ce grand frère pour parvenir à se faire une place. Il n'a pas un yen vaillant en poche et a furieusement besoin d'un nouveau complet. Sans doute, attendri par la détermination de son benjamin, Tadao lui vient en aide et Hiro va gravir les échelons peu à peu. Comptable, il met toute son énergie à séduire son patron qui le prend sous son aile. Doué pour les langues, il apprend le chinois afin d'être en phase avec les fournisseurs. C'est sans doute l'époque la plus heureuse de la vie d'Hiro, qui par ailleurs se passionne pour la danse et les jolis costumes. Son boss lui offre même une voiture, une Studebaker 1936, au volant de laquelle il parade avec plaisir. Le 7 décembre 1941, le Japon entre en guerre lors de l'attaque de Pearl Harbor, ce qui va tout changer dans la conduite des opérations militaires. Onoda est toujours en Chine, plus pour longtemps.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire d'Hiro Onoda, ce soldat de l'armée japonaise qui, pendant 30 ans, refusera d'admettre que la guerre est finie. Mais avant de devenir le dernier des résistants, il lui faudra passer par d'innombrables péripéties. En mai 1942, Hiro a 20 ans. C'est un tout jeune homme encore. Dans le télégramme qu'il envoie à sa famille après avoir passé les tests d'aptitude pour l'armée, il écrit « Banzai ». Ça ne s'invente pas. Selon la pratique japonaise, il est envoyé dans la garnison la plus proche de sa ville natale, soit le 61e régiment d'infanterie de Wakayama. Une fois de plus, quand il rentre au bercail, Hiro est accueilli comme le vilain petit canard. L'un de ses frères enseigne à l'école militaire de santé. Un autre est entré à l'école de l'air. Reste Hiro. Il va, dans un premier temps, s'occuper de la famille de son frère avant d'intégrer à son tour une caserne où séjourne le dit frère. Impossible de se séparer de ce petit sparadrap. Les entraînements se succèdent. L'instruction est pénible. Hiro est blessé au pied lors d'un combat avec les Chinois, mais grâce à son frère, il entre le 1er août 1943 dans un camp spécial. Il intègre l'école de Kurum, dont la réputation fait froid dans le dos. Simple soldat comme officier mène une vie de misère. Il mange peu, du riz, du seigle, un petit peu de poisson, de la viande, une fois par semaine. Les distractions n'existent pas et il est interdit aux recrues de parler de leur expérience. C'est un terrain d'entraînement parfait pour le futur résistant que sera Hiro dans la jungle. Le jeune Hiro tient bon, malgré les brimades et les discours à la fois belliqueux et catastrophistes de ses supérieurs. Il passera un peu moins d'un an dans l'école de Kurum. Il la quitte le 5 mars 1944, tandis que la guerre fait rage, tant sur le vieux continent que dans le Pacifique. À son frère, encore lui, qu'il retrouve dans son ancienne unité, c'est un Hiro aguerri qui affirme « Je suis prêt à mourir pour l'empereur ». Sa détermination semble sans limite. Dans les rangs japonais, ils sont nombreux à se douter que leur pays ne gagnera pas cette guerre-là. Hiro, lui, n'en croit rien. Et lorsqu'il reçoit son nouvel ordre de mission, c'est avec une fierté certaine. Car l'officier de réserve qu'il est devenu rejoindra la 33e compagnie de l'armée de l'Est. Celle-ci est entourée de mystères, au point qu'avant de poser le pied à Futamata, où elle est casernée, Hiro n'en a jamais entendu parler. Il n'en faut pas plus pour le gonfler d'un certain orgueil. C'est de la bouche de Toshio, l'autre frangin, celui qui enseigne à l'école militaire de santé, qu'il découvre ce qu'est en réalité Futamata. Lors d'une courte permission et alors qu'il lui rend visite à Tokyo, Hiro passe la soirée chez son ami. C'est à mi-mot que celui-ci lui explique que là où il va, on va lui apprendre à tuer et à se taire. Dans la tête d'Hiro, c'est clair. Il ne s'agit rien de moins que d'espionnage et de service secret. Le 2 septembre 1944, alors que les Alliés ont débarqué 2 mois plus tôt sur les côtes normandes, changeant le cours de la guerre en Europe, Hiro rencontre pour la première fois son commandant. Ce dernier dit à ses troupes « Notre but est de vous entraîner à la guerre subversive !» et d'ajouter « En entrant ici, vous devez renoncer à tout espoir de glorification personnelle et abandonner vos conceptions traditionnelles de l'honneur militaire. » Oui. Voilà qui a le mérite d'être clair. Ou pas d'ailleurs, ce qui provoque un petit vent de révolte chez les officiers qui se voyaient déjà montés au front sabre au clair. Or, voilà qu'on leur fait comprendre qu'ils vont mener des missions bien plus secrètes et, dans leur esprit, moins glorieuses. Ils sont rapidement remis à leur place par le commandant. Entre les cours dans des locaux bondés et les entraînements qui n'en finissent pas, les élèves de Futamata ont la vie dure, très dure. Mais une fois encore, Hiro s'en accommode. Là où d'autres rechignent ou ne comprennent pas, lui saisit rapidement l'intérêt qu'il peut y avoir à saper le moral de l'ennemi, par exemple. En octobre 1944, un autre événement majeur va faire basculer le Japon et la vie d'Hiro. Les troupes américaines débarquent aux Philippines, occupées par le Japon depuis 1942. Les combats en mer font rage pendant 3 jours, notamment autour de l'île de Leyte. La bataille navale tourne en faveur des Alliés et le 31 décembre, la victoire est acquise. Toutefois, le Japon ne déclare pas forfait et défend pied à pied les autres îles de l'archipel. C'est dans ce cadre qu'Hiro Onoda et ses hommes sont envoyés à l'état-major de Manille. Le 7 décembre 1944, après avoir eu tout juste le temps de faire ses adieux à sa famille, sa nouvelle vie commence. Et quelle vie ! Elle démarre par un voyage des plus tumultueux vers les Philippines. Météo abjecte. Accident lors d'un atterrissage forcé et sans aide au sol. Typhon, tempête. Les difficultés s'accumulent au-dessus des têtes. Il leur faudra une semaine entière pour rallier enfin l'aéroport de Clark sur l'île de Luçon. Une fois sur place, la première mission qui leur est assignée, rejoindre l'état-major de Luçon, 90 kilomètres plus au sud, déguisé en paysan, est annulée. La situation est tellement grave, voire désespérée, pour les troupes de l'empereur, qu'on change de stratégie. C'est ainsi qu'Onoda quitte Manille à bord d'un camion bourré d'explosifs dissimulés dans des pots de confiture de fraises. Made in USA, s'il vous plaît. C'est là, enfin, qu'il reçoit l'ordre de mission qui va tout changer. Onoda partira pour Lubang, dans le but de retarder le débarquement américain. Au lieutenant-colonel Buteau, qui commande l'état-major, Onoda assure « Les ordres seront exécutés, mon colonel. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. » En réalité, il ira même bien au-delà. Onoda rejoint donc Lubang avec de maigres effectifs. Sa demande de support en homme a été rejetée, mais on lui assure que sur place, il sera épaulé par une compagnie de soldats japonais et non philippins, extrêmement compétente. Chargé de 8 tonnes de munitions, il embarque avec 5 soldats sur le Seifuku Maru. Le départ est prévu de nuit pour plus de discrétion, vous l'avez compris. La flotte américaine est présente dans la région et surveille les côtes depuis des bâtiments bien plus robustes et équipés que les Seifuku Maru. La traversée se fait sans encombre, ce qui est assez rare dans la vie d'Onoda pour être souligné, et l'on accoste enfin sur ce petit bout de terre. 300 km² à peine, soit 30 km du nord au sud et 10 d'est en ouest. Les ennuis et les tracasseries recommencent à peine arrivés. L'armée japonaise est si désorganisée depuis le débarquement américain que les communications entre les différents états-majors, les différentes unités, sont plus que difficiles. Quant au lieutenant qui l'accueille, il n'a pas compris qu'Onoda était venu pour rester et non simplement pour livrer du matériel militaire. Ce qui ne décourage pas notre vaillant soldat de se mettre directement au travail et d'imaginer comment il va saboter ici, faire exploser là-bas. D'emblée, par exemple, il envisage qu'on pose des explosifs le long des pistes de l'aéroport. On lui répond que c'est une mauvaise idée, car l'aviation militaire nippone pourrait reprendre du service. Ceux qui affirment ça, y croient-ils vraiment? Alors même que la défaite est inévitable. Rusé, Hiro Onoda a alors une autre idée. Pour tromper l'ennemi, il fait disposer sur les pistes les vieux coucous qui ne servent plus car trop abîmés ou tout simplement incapables de voler. Il les fait camoufler grossièrement et puis il attend. Ce qu'il avait espéré se produit. Les bombardiers américains, jour après jour, 10 au total, viennent détruire ce qu'ils croient être la flotte nippone. Bref, ils font économiser à Onoda de précieux explosifs. Évidemment, la ruse ne dure qu'un temps, surtout face à un ennemi aussi bien armé que les États-Unis. Le 1er février 1945, ils ont commencé le débarquement sur l'île de Luçon, coupant encore un peu plus le cordon qui reliait Onoda et ses hommes au reste de l'archipel. On a beau lui avoir dit que Lubang était un paradis où trouver de la nourriture était un jeu d'enfant, le tout frais promu sous-lieutenant a bien du mal à remplir tous ses ventres vides. Et plus encore quand, en guise de renfort, on envoie des petits bateaux kamikazes bourrés d'explosifs qui ont pour mission d'aller s'écraser sur les navires américains. Onoda va user de tous les stratagèmes pour se faire livrer du riz par des Philippins qui rechignent à aider ceux qu'il voit comme des envahisseurs depuis 3 longues années déjà. Mais cela ne suffira pas. Les GIs sont aux portes de Lubang et le débarquement est imminent. Il a lieu le 28 février 1945. La première vague ne compte que 50 Marines. Trop peu, pense Onoda qui, contrairement à ceux qui veulent passer à l'attaque, préfère préparer sa défense. Bien maigre, la défense, face à ce qui s'apprête à déferler sur Lubang. Le sous-lieutenant a vu juste. C'est un déluge de feu et de bombes qui s'abat sur l'île. On ordonne la retraite, direction la montagne. Des chars américains arrivent tout droit sur la position choisie par Onoda. Il faut donc se rendre à l'évidence et prendre la route de la jungle pour atteindre un piton d'où l'on pourra voir venir l'ennemi. Mais avant, il faut récupérer des munitions et du ravitaillement. Durant cette opération, de nombreuses vies seront perdues. Chaque jour qui passe, l'étau se resserre un peu plus et les nouvelles, ou le peu qui lui parviennent, sont désastreuses. Dans cette jungle effrayante, au cœur d'une armée en déroute, confrontée à des troupes américaines bien armées, l'errance d'Onoda commence. Avec le caporal Shimada, il cherche une nouvelle position où pourraient trouver refuge les blessés et les quelques soldats vaillants qui se défendent comme ils peuvent. Mais quand ils finissent par la trouver, on les informe que les survivants se sont divisés en deux groupes et qu'il serait vain de tenter de les retrouver dans cette forêt dense et humide. La mort dans l'âme, Onoda et Shimada retournent à leur point de départ. Le temps passe et l'armée américaine nettoie l'île aux lance-flammes. Les pertes sont innombrables dans les rangs japonais. Oh, c'est bien simple, tous les officiers sont morts. Tous, sauf Onoda. Des 250 soldats, il en reste moins d'une cinquantaine. Ils sont affamés, n'ont pratiquement plus de munitions et pas davantage d'espoir dans leur pactage. Estimant que le travail est accompli à Lubang, les Américains cessent leur quadrillage systématique. Ils ont repris l'île, c'est l'essentiel. Une poignée de Japonais, pourtant, ne l'entend pas de cette oreille. Bien cachés dans la jungle, Onoda et les siens ont juré qu'ils se battraient jusqu'au bout. Et ils vont tenir parole.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous partons à la découverte de la jungle philippine sur l'île de Lubang, dans les pas d'Hiro Onoda. Ce soldat de l'armée japonaise s'y est réfugié et s'y est battu envers et contre tout pendant 30 ans, refusant de croire que la guerre était finie. Le 15 août 1945, donc, le Japon accepte la défaite. La guerre est finie. Quelques jours plus tôt, les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, ce qui n'a fait qu'accélérer le processus de reddition. Onoda et ses 3 compagnons d'infortune qui ont décidé de continuer la lutte, Shimada, Kozuka et Akatsu, sont de retour d'une rapine lorsqu'ils croisent une patrouille venue à leur recherche. On a beau leur certifier que la guerre est finie, que l'empereur a parlé, qu'ils peuvent rentrer chez eux, rien n'y fait. « Non mais vous êtes fous ou vous êtes passés à l'ennemi ?» leur demande Onoda, avant d'ajouter « Pour nous, la guerre n'est pas finie. Le commandant Taniguchi m'a bien spécifié de ne pas quitter mon poste. Tant que je n'aurai pas reçu de contre-ordre, je continuerai le combat. » Hiro Onoda a beau être militaire aguerri, avoir reçu une formation en stratégie, parler chinois et être capable d'envoyer des messages codés, survivre dans la jungle est une autre paire de manches. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Survivre en attendant que le Japon enfin reprenne l'île dont il pense assurer la protection. Dans leur aveuglement, leur naïveté ou leur dévouement aux couleurs du drapeau, chacun jugera, ils pensent encore que la vapeur peut s'inverser et la victoire être conquise. En attendant, il faut trouver de quoi manger, se vêtir, des endroits où dormir, d'autres où se protéger lors de la saison des pluies. Si les fruits ne manquent pas, on trouve des noix de coco, des mangues et des bananes à profusion. Se procurer de la viande est moins facile. Perpétuellement en alerte. Rappelons que, dans leurs esprits, la guerre n'est pas finie et que, par ailleurs, les soldats philippins les détestent. Ils doivent choisir leur moment pour aller chasser le buffle, ou le buffle d'eau, ou le cheval, quand il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Il y a aussi les sorties. Non, pas dans les bars de Lubang, non. Mais à la nuit tombée, dans la plus grande discrétion, pour aller voler du riz ou d'autres denrées chez les habitants de l'île. Quand ce ne sont pas des vêtements, puisque l'humidité a rapidement eu raison des leurs. Et les chaussures ? Ah ben, ils les fabriquent eux-mêmes. D'abord avec de l'herbe. Selon une technique ancestrale, ils se confectionnent des oris. Puis utilisent leur guêtre et du caoutchouc qu'ils ont chapardé. Humainement, même s'ils ne sont que quatre, la cohabitation n'est pas toujours facile entre Onoda, Shimada, Kozuka et Akatsu. Le premier, même s'il est le plus jeune, est le plus grindé. C'est donc à lui qu'il faut en référer. Leurs discussions tournent parfois allègres, en particulier quand ils se mettent à réfléchir aux messages et aux messagers qu'on leur a envoyés depuis qu'ils se sont réfugiés dans la jungle. D'autant que ces quatre hommes ont des caractères très différents. Le plus rigolo de la bande semble être Shimada. Il est aussi le plus âgé. Fils de paysan, il est le plus proche de la nature et le plus à même de la comprendre et donc de l'utiliser. Kozuka est taiseux, on le dirait timide, si on ne décelait pas de la bonhomie sous cette carapace. Quant à Akatsu, garçon de la ville, c'est le plus frêle et le moins doué de prime abord pour survivre en pareilles conditions. D'ailleurs, il lui arrive parfois de se mettre à hurler qu'il veut rentrer chez lui, partir, fuir cet enfer. Pour être sûr de ne pas se faire repérer par l'ennemi, Onoda a décidé qu'il ne fallait pas rester trop longtemps au même endroit. Hors de la saison des pluies, qui dure 4 mois, il impose donc de longues marches dans la chaleur et l'humidité, leur barda sur le dos, leur fusil à l'épaule et leurs maigres munitions dans leur cartouchière. Pendant plusieurs mois, ils font le tour de l'île, suivant toujours le même itinéraire, s'arrêtant là où la nourriture est la plus abondante et l'eau la plus pure. Dans sa petite caboche, Onoda cartographie l'endroit et se dit que sa connaissance de Lubang sera bien utile quand l'armée nippone y remettra enfin les pieds. Car pour lui, ça ne fait aucun doute. L'Empire va contre-attaquer. Dès 1945, Akatsu a des velléités de départ. Il a lu dans un journal japonais arrivé par les airs d'un avion ennemi que la guerre était effectivement finie. Un an plus tard, c'est quand il a remarqué que le phare avait été rallumé qu'il a fait le lien avec un possible armistice. Mais chaque fois, Onoda l'a vertement tensé, lui démontrant qu'il ne s'agissait là que de quelques pièges grossiers destinés à leur faire abandonner la lutte. Sauf que là nous sommes déjà en 1949. Et que l'on n'a pas encore vu le moindre navire, ni le moindre avion japonais à l'horizon. S'il a déjà disparu 3 fois, Akatsu est toujours rentré au campement, soit par lui-même, soit parce que Shimada est allé le rechercher. Mais la 4e est celle de trop. Onoda refuse qu'on gaspille son énergie à tenter de le retrouver. Après 1 mois passé seul dans la jungle, en juillet 1950, Akatsu se rend aux Philippines. Pour lui, la guerre est bel et bien finie. Ils ne sont donc plus que 3 soldats, de moins en moins vaillants, à arpenter Lubang, sa jungle, ses montagnes. Du ciel tombent des tracts qui leur répètent de se rendre. Un jour, c'est un haut-parleur qui leur diffuse un message en japonais, mais ils n'y croient pas plus qu'au reste de la propagande. Intrigués, ils s'approchent pourtant de cette source sonore inattendue et, de l'autre côté de la rivière, reconnaissent Akatsu. Le temps défile, mais pas en accéléré pour les 3 hommes. Ils célèbrent ensemble la nouvelle année, 1951. Mais le cœur y est-il vraiment? D'autant que le moral de Shimada est au plus bas depuis qu'il a appris, toujours par des tracts venus du ciel, que sa femme, enceinte quand il est parti combattre, avait donné naissance à une petite fille, une gamine de 7 ou 8 ans, qu'il ne connaît absolument pas. Si les 3 soldats sont obstinés, ceux qui les recherchent pour les ramener chez eux ne le sont pas moins. C'est toujours à coups de petits feuillets lancés depuis le ciel qu'ils espèrent les convaincre. Mais Onoda a toujours le dernier mot. Même quand il reçoit une photo de ses parents devant leur maison. Quelque chose cloche à ses yeux. À l'arrière-plan, on voit d'autres personnes. Ah, du coup, il en est sûr. C'est un montage. Ça ne peut être qu'un montage. En 1952, tandis qu'il espère prendre par surprise un groupe de pêcheurs philippins pour leur voler leur nourriture, les trois hommes se voient opposer une résistance inattendue. L'un des pêcheurs s'empare d'une arme et tire. Shimada est touché. Une balle dans la jambe, mais le projectile est ressorti. N'empêche, s'ils avaient déjà connu quelques petits bobos ici, c'est du sérieux. Surtout quand on n'a que de la graisse de buffle pour tartiner les pansements. Shimada guérit, mais le moral, lui, reste en berne. Le temps devient long. Et nous ne sommes qu'en 1954. 10 années se sont écoulées depuis qu'ils sont arrivés sur l'île, mais ce pourrait être 1000 ans. En mai de cette année-là, tandis qu'ils marchent et marchent encore, ils tombent sur une petite troupe d'une trentaine de soldats philippins. Ils hésitent sur la direction à prendre et sur la manière de ne pas se faire tirer comme des lapins. Les discussions sont âpres et, comme toujours, c'est Onoda qui tranche. Pour épargner la jambe de Shimada, ils vont rester là, à l'abri, jusqu'au lendemain. Et puis ensuite, ensuite on verra. Ce qu'ils verront, c'est la mort de Shimada, parti faire sécher des bananes au soleil sur un arbre abattu. Il aura suffi d'un petit bruit pour qu'un jeune soldat philippin ameute la troupe. Touché à la tête, les deux autres ne peuvent rien faire pour Shimada. Ils se promettent de le venger et s'enfoncent à nouveau dans la jungle. Triste décompte continue. Désormais, ils ne sont plus que deux. On ne peut s'empêcher d'imaginer ces journées sans fin, persuadés de n'être à l'abri de rien ni de personne, vivant de larcin, se battant contre des ennemis parfois aussi petits que des fourmis. Oui, de redoutables fourmis qui faillirent laisser Onoda sourd après qu'il eût été piqué dans l'oreille. C'est encore la solidarité qui lui a valu de garder la vie éblouie puisque son dernier compagnon, Kozuka, a pris soin de lui durant toute cette maudite semaine. Leur petit monde va toutefois s'élargir un peu lorsqu'en 1955, après avoir fait fuir les habitants d'une cabane, ils découvrent une radio. Le reste ne les intéresse guère, même s'ils notent qu'au moins un de ceux qui vivaient là devait venir de la ville, eu égard aux chaussures, pantalons et jolies chemises qui s'y trouvent. Non, ce qui les intéresse au plus haut point, c'est ce petit boîtier sur lequel on peut lire Toshiba. Par chance, le petit transistor possède des piles neuves. Fébrilement, ils se mettent en quête de stations à écouter. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais ils captent notamment un programme en japonais destiné à l'Australie. Une fois réglé le problème des piles, ils volent celle des lampes des ouvriers et de l'antenne. Encore un vol, du fil de cuivre à des policiers. Et puis reste une question qui les taraude. Mais pourquoi diable ne parle-t-on pas de la guerre ? Bah, encore un coup des Américains, dit Onoda. Cette fenêtre sur le monde va tout de même leur permettre d'être informés, notamment du fait que les JO de 1964 vont se tenir à Tokyo et que l'homme a marché sur la Lune. Ils découvrent aussi que le Japon est devenu la 3e puissance mondiale, ce qui fait dire à Onoda que la guerre sera sans doute bientôt terminée. Ce qu'ils entendent de la marche du monde, sans l'expérimenter, pousse les deux hommes à extrapoler, à réécrire l'histoire comme ils se l'imaginent, à la lumière de leur patriotisme sans faille, évidemment. Après la mort de Shimada en 1954, le Japon avait estimé que les deux autres soldats, Onoda et Kozuka, devaient eux aussi être tombés sous les balles. Dans le village natal d'Onoda, une stèle fut même dressée, où l'on pouvait lire qu'il était mort à Lubang, à l'âge de 32 ans. Pourtant, les recherches continuent puisque des années plus tard, en 1959, les tracts se remettent à pleuvoir. Mieux, le frère d'Onoda vient en personne lui transmettre un message qui résonne dans un haut-parleur. Mais même cela ne le fait pas flancher. Dans son esprit, son frère a été contraint, fait prisonnier ou menacé, sans quoi jamais, jamais il ne se serait livré à une telle mascarade. Se sentant de plus en plus traqués et harcelés, les deux « diables de la montagne », comme les paysans les surnomment, décident de passer à l'action pour qu'on leur fiche la paix. Comment ? En boutant le feu aux bottes de foin et au riz qui est déposé afin qu'il sèche. La technique fonctionne, chacun restant dans son pré carré. Enfin, façon de parler. C'est lors de l'un de ces raids, en 1972, que va se sceller le sort de Kozuka. Les deux hommes ont repéré des paysans qui récoltent leur riz près du petit village de Kalamanok. Selon leur technique habituelle, ils tirent sans intention de tuer, mais avec celle de les faire fuir. Puis ils mettent le feu, ramassent ce qui est bon à prendre et se font la malle. Ce jour-là, pour bien faire passer leur message, ils décident qu'ils vont aussi faire flamber le sac de riz qu'ils découvrent à côté d'une marmite bouillonnante. Onoda va chercher de la paille en contrebas et tandis qu'il remonte rejoindre son compagnon, les balles se mettent à fuser. Kozuka est touché une première fois à l'épaule, puis à la poitrine, à plusieurs reprises. Il s'effondre, sans qu'Onoda ait rien pu faire pour lui. Et le voilà seul. Si le chagrin l'oppresse autant que sa nouvelle solitude, il sait qu'il doit agir, être efficace, se séparer des objets inutiles, ne garder que l'essentiel, aller cacher dans une grotte qui lui sert, en somme, de coffre-fort, un fusil et des munitions. Alors il s'active, comme pour oublier. Un jour, sur une colline où il a ses habitudes depuis le temps, Onoda découvre une cabane qu'il ne connaissait pas. Sur la porte, un drapeau japonais et une lettre de son père. Puis, une voix résonne. Elle vient du ciel. Ou plus exactement, d'un hélicoptère. Et lui demande de se montrer, lui répétant inlassablement que la guerre est finie. Non, non et encore non. Pas plus qu'il ne dira oui à sa sœur, Chie, quand elle aussi fera le voyage à Lubang pour tenter de le convaincre. Ni à son frère tant aimé, Tadao, ni même à son père. Il faudra attendre l'entrée en scène de Suzuki Norio, un jeune aventurier de 24 ans, pour faire sortir Onoda de sa jungle et de son déni. Suzuki installe sa petite tente, non loin de l'endroit où il espère débusquer le sous-lieutenant. Bon, il n'a rien d'un militaire, d'ailleurs, il n'en est pas un. Il a juste décidé qu'il serait celui grâce à qui Onoda rentrerait au Japon. Il se présente comme un touriste. S'il s'en méfie un peu, Hiro Onoda accepte de discuter et même de se laisser photographier. Mais rentrer au Japon, sans en avoir reçu l'ordre écrit, ça jamais. Alors Suzuki lui promet de revenir le voir avec le précieux papier qu'Onoda réclame et attend depuis si longtemps. Signé de la main de Taniguchi, qu'il a envoyé à Lubang 30 ans plus tôt. Le 7 mars 1974, Onoda va vérifier sa boîte aux lettres. Il y découvre une missive de Suzuki, l'informant que Taniguchi en personne l'attend à l'endroit où il l'avait précédemment photographié. Dans l'enveloppe, il y a d'ailleurs quelques clichés. Les premiers de lui qu'Onoda voit depuis 3 décennies. Il y a aussi une lettre de l'ambassadeur du Japon aux Philippines. Tout cela date du 4 mars. Depuis, ils l'attendent. Et Onoda hésite. Une dernière fois, le 9 mars, peu après 16 heures, il arrive aux abords du campement. D'abord, il observe, caché dans un arbre. Suzuki est en train de préparer le dîner. Quand il aperçoit Onoda, il appelle Taniguchi, qui est dans la tente. Sous-lieutenant Onoda, vous avez bien accompli votre devoir. Nous sommes fiers de vous, lui dit ce dernier. Rentré au pays avec les honneurs, non sans avoir rencontré toutes les huiles philippines, dont le président Marcos en personne, Onoda retrouvera ses deux parents, très âgés, à sa descente d'avion. Il sera ensuite mis sous le feu des projecteurs pendant longtemps après son retour, invité à raconter son histoire un peu partout. pas facile pour cet homme pudique qui vécut si longtemps dans la solitude. Il choisit ensuite de s'éloigner de toute cette agitation médiatique et s'installe au Brésil, où il devient éleveur de bétail. Son autobiographie, « Ma guerre de 30 ans sur l'île de Lubagne », est un succès. Hiro Onoda épouse une de ses compatriotes et rentre finalement au Japon en 1984, où il fonde une base de pleine nature pour les enfants, leur enseignant ce qu'il avait lui-même découvert lors de sa vie dans la jungle. En 1996, il refait le voyage vers Lubang avec un précieux chèque de 10 000 dollars pour l'école locale. À 91 ans, le 16 janvier 2014, Hiro Onoda s'éteint à Tokyo. Il aura donc passé un tiers de sa vie coupé du monde. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Jacqueline Van Der Beek.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.